Alors, je passe à ma troisième partie, pour vous laisser quand même temps, mais qui est une partie importante, qui est de dire, alors je résumé des épisodes précédents. Hein, on a un gros problème d'hétérogénéité, qui est la cause fondamentale de la crise. Et ce problème d'hétérogénéité, il a deux composantes. Une hétérogénéité malsaine, hein, qui vient des problèmes de compétitivité dont on vient de parler, et dont il s'avère qu'on n'est pas capable de les traiter de façon simple, et en tout cas, on les traite d'une façon extraordinairement coûteuse. Et il vient, et c'est le point vraiment le plus profond, et le plus largement, bien sûr, d'un problème structurel qui est que les pays se sont spécialisés pour des raisons parfaitement légitimes, de façon différente, les uns dans l'industrie et les autres dans des services non exportables. Que ceci est lié à l'effort d'innovation, à la qualification de la main-d'œuvre, à la position géographique, aux ressources naturelles, aux problèmes de transport, enfin, etc., etc. Hein, et que ceci se produit dans tous les États, hein, que les régions se spécialisent différemment. Et la question est comment on s'en sort et quelles sont les pistes maintenant pour le futur. Et c'est ici que je vais introduire l'aspect qui est lié aux institutions. Alors, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la contrainte forte qui pèse sur les pays, c'est qu'en l'absence de tout système européen fédéral, les pays ont une contrainte qui est une contrainte d'équilibre extérieur. Hein. Ces pays doivent équilibrer leur compte extérieur puisqu'ils ne peuvent pas, dans le long terme, se financer par l'endettement. Hein, puisqu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, on en avait déjà parlé, ils atteignent un niveau d'endettement maximal au-delà duquel ils doivent arrêter de s'endetter. Je n'ai toujours pas retrouvé mon joli graphique avec l'endettement, mais je sais pas, il a complètement disparu, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation où ceci, c'est là. Donc, les pays doivent faire disparaître leur déficit extérieur. Et on a vu, hein, rappelez-vous aussi, que ceci s'était fait d'une façon extrêmement, pas simple, mais dure, qui était la baisse de la demande intérieure dans les pays. Hein, les pays. Dans ces pays, la demande intérieure a diminué jusqu'à ce que les imports d'inflation diminuent suffisamment pour équilibrer le commerce extérieur. Donc c'est un ajustement qu'on peut appeler par le chômage, hein, ou par l'appauvrissement. Hein, en gros, on baisse le revenu des individus jusqu'à ce qu'ils consomment suffisamment peu pour que le déficit extérieur disparaisse. Hein, et, donc c'est un, et donc, bien sûr, ceci fait du chômage, puisque vous baissez la demande. Donc, on a mis en place cet ajustement par l'appauvrissement et par le chômage. Donc, la variable d'ajustement de la crise, hein, c'est le revenu ou c'est le chômage, de façon équivalente, comme vous préférez. C'est évidemment extraordinairement difficile. Alors, je vais faire une dernière tentative sur mon graphique que j'ai perdu. Non, mais je l'ai vraiment perdu. Je ne sais pas pourquoi. Mais il a totalement disparu, ce truc-là. C'est quand même curieux. J'avais un beau graphique, mais je voulais... Bon. Et donc, on est aujourd'hui, on est complètement dans cette dynamique. Hein, où je vous le remontre. Hein, c'est la chute de la consommation, par exemple, qui permet à un pays comme la Grèce... Vous voyez que la consommation en Grèce, moins 8%, moins 9%, c'est le chiffre sur la dernière année. Hein. Avec l'année d'avant, c'était moins 8, l'année d'avant, c'était moins 8, l'année d'avant, c'était moins 5. Donc, on en est à moins 35 ou moins 40%. Le pouvoir d'achat moyen d'un Grec a baissé de 40% depuis le début de la crise. Il faut voir ce que ça représente. Si vous faites ça, évidemment, vous arrivez bien à équilibrer le commerce extérieur de la Grèce. Alors, il y a un théorème assez simple. Vous savez, c'est une question que je pose toujours, une question quiz pour étudiants de première année. Hein, écoutez, au fond, dans un pays qui n'a aucune industrie, quel est le niveau de salaire compatible avec la participation à la zone euro? Si le pays n'a aucune industrie, il peut exporter rien, il importe tout. Comme il n'a pas droit à un déficit extérieur, il ne peut rien importer. Et pour qu'il importe rien, il faut que le niveau de salaire soit de zéro. Hein, donc le théorème est assez simple. Ou alors, il faut que tout le monde meure, mais ça revient au même. Quoi, en gros, hein. Donc, vous voyez que c'est assez violent. Quoi. On est dans cet ajustement très violent. Alors, dans les pays comme l'Espagne ou l'Italie, qui ne sont quand même pas aussi désespérés que la Grèce, l'ajustement est moins violent. Mais si vous cumulez la perte de pouvoir d'achat des Italiens depuis le début de la crise, vous arrivez à une quinzaine de pourcents. Donc, ce n'est quand même pas rien du tout. Hein. Donc, vous êtes dans un ajustement par la pauvreté et par le chômage. Question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on pourrait imaginer dans la zone euro un équilibre à long terme qui soit mieux que celui-là? Hein. Alors, quand vous, à nouveau, quand je parle à mes camarades allemands, par exemple, vous savez qu'il y a un groupe qui s'appelle les cinq sages, hein, qui sont les conseillers de la chancelière, eh bien, la réponse est, ben, quel est le problème avec cet ajustement? Donc, ça s'appelle un ajustement par les mécanismes de marché. Donc, ça vous intéresse, d'ailleurs, on a écrit un truc là-dessus dans les papiers de Natixis qui nous vaut un abondant courrier de lecteurs fâchés, hein, en disant, ben, finalement, quelle est la vision allemande de l'ajustement? Ben, c'est un ajustement par des uniquement par des mécanismes de marché et pas du tout par l'intervention publique. Donc, un, on en a parlé d'évaluation interne, donc baisse des prix et des salaires pour améliorer la compétitivité, mais on sait que ça ne suffit pas. Vous pouvez baisser tant que vous voulez les prix et les salaires en Grèce ou au Portugal, vous n'allez pas en faire des grands pays industriels. Et ensuite, deuxièmement, émigration. Donc les jeunes ingénieurs s'en vont là où est l'industrie, modèle américain. Quoi. Si vous naissez dans l'Alabama, et si vous êtes ingénieur, vous n'allez pas rester dans l'Alabama. Quoi. Donc les jeunes Espagnols diplômés partent tous en Allemagne. En parenthèse, ça a commencé. Hein, 200 000 émigrants l'année dernière en Espagne, hein, qui sont partis, une partie retour en Amérique latine, une partie effectivement en Allemagne. Hein. Troisièmement, ajustement des prix des actifs. Ça veut dire que les prix de l'immobilier... Alors, j'ai un camarade allemand qui est assez sympa. Alors, il a tenu comme une théorie qui était quand même... Mais ça ressemble au bouquin... Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin d'Houellebecq qui s'appelle la carte et le territoire. Ça ressemble vraiment à l'histoire d'Houellebecq. Donc, en gros, les prix de l'immobilier baissent en Espagne. Hein. Les Allemands achètent l'immobilier pas cher. Les Espagnols vendent leur immobilier pas cher aux Allemands. Avec cet argent-là, ils remboursent leur dette publique, donc on a réglé le problème d'endettement, ou leur dette privée. Et après, les Allemands habitent dans l'immobilier des Espagnols, et les Espagnols arrivent le matin à vélo amener des croissants aux Allemands qui leur ont acheté leur maison. Et tous les Espagnols qui savent faire mieux que ça sont à Munich chez BMW. Quoi. Hein, donc voilà, c'est en gros ça, quoi. Hein. Ça s'appelle l'ajustement par les mécanismes de marché. Cela étant, un bout de l'ajustement va se faire comme ça. Hein, c'est évident qu'un bout de l'ajustement va se faire comme ça, par des cessions d'actifs. Hein, il y a déjà des actifs des pays en difficulté qui sont vendus aux pays riches, quoi, hein, par l'immigration, les jeunes hein, qui vont travailler là où il y a des emplois, quoi, etc. Mais bon, est-ce qu'on peut accepter que tout l'ajustement se fasse comme ça ? C'est-à-dire par l'ajustement, uniquement par des mécanismes de marché. Et alors, si on veut sortir de ça, c'est-à-dire si on veut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on voit que ce qu'on peut faire, ça s'appelle, alors ça peut prendre des formes extraordinairement diverses, mais ça s'appelle d'une façon ou d'une autre, le fédéralisme. Hein. Le fédéralisme étant d'une façon très large d'exprimer l'idée qu'il se crée une solidarité entre les pays qui génère des mécanismes divers qui empêchent qu'on soit uniquement dans un ajustement par les mécanismes de marché, à celui que je décrivais à l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée? Alors, le fédéralisme total, vous voyez, c'est comme aux États-Unis, c'est l'union budgétaire. Donc, il y a un seul budget européen, et ce budget est dépensé, on ne regarde pas où on le dépense, quoi, je veux dire. Donc, s'il y a plus de besoins dans les pays du Sud, on va y consacrer plus d'argent public. Ce qui veut dire que dans une dose qui pourrait être assez importante, les pays plus riches paieraient des impôts qui seraient dépensés dans les pays en difficulté. On avait calculé d'ailleurs dans un de nos travaux que si vous vouliez faire ça, et si vous vouliez totalement rééquilibrer la situation des pays par des transferts liés au fédéralisme, il faudrait prélever 8% du PIB des pays du Nord de la zone euro pour le donner aux pays du Sud. Et c'est intéressant comme chiffre, d'ailleurs, parce que c'est exactement la partie du revenu des Allemands de l'Ouest qui est encore aujourd'hui donnée aux Allemands de l'Est. Hein. Donc, vous voyez, Alors, c'est pour ça que les Allemands de l'Ouest ne sont pas fanatiques. Hein. Parce que déjà, ils donnent 8% aux Aussies, comme on dit, et en plus, il faudrait qu'ils donnent 8%, c'est qu'on dit les olive pickers, hein, les ramasseurs d'olives. Hein, donc, ça fait quand même, ça finit par faire 16%, quoi, pour le bon francfortois, donc il renacle. Hein. Mais bon, donc vous voyez, le fédéralisme. Alors, quel est le problème évidemment? C'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est le rejet assez clair du fédéralisme par les pays du Nord, et d'ailleurs par un certain nombre aussi d'autres pays, qui ne veulent pas entendre parler de ces transferts, hein, et qui ne veulent pas entendre parler d'abandon de souveraineté ou de ce que les Allemands appellent l'union de transfert. L'union de transfert pour les Allemands, ce n'est absolument pas le projet européen. Le projet européen, c'est une union monétaire sans transfert. Ça, c'est le traité de Lisbonne, quoi, ex-Maastricht. C'est une union sans transfert. Donc vous avez libre-échange, libre circulation des personnes, libre circulation des capitaux, libre circulation des biens, monnaie unique, mais il n'y a pas du tout de budget commun. Et d'ailleurs, c'est aussi commence avec le traité de Rome, parce que comme vous le savez, dans le traité de Rome, sont des fonctions européennes, le commerce, la concurrence, l'agriculture, et pas l'économie, pas la fiscalité, pas les règles de protection sociale, pas les budgets. Il n'y a pas de commissaire européen au budget. Par contre, si vous regardez la concurrence, les agences nationales de la concurrence sont sous l'autorité du commissaire européen à la concurrence. Donc on a exclu explicitement du projet européen l'union, ce qu'on a décidé d'appeler l'union budgétaire, parfois on dit union politique, mais bon. Alors ceci pose une question, vous voyez, très, très centrale, qui est: est-ce qu'on veut rester comme ça? Si on veut rester avec une souveraineté budgétaire absolue, sans aucun fédéralisme budgétaire, sans aucune union budgétaire, eh bien, on va évidemment être dans un ajustement qui sera essentiellement l'ajustement par les mécanismes de marché dont je parlais avant, et qui est celui qui est complètement en train de se mettre en place aujourd'hui. Et si on veut autre chose, il va falloir... On ne peut pas faire l'économie d'un changement important des institutions. Alors, dans le débat européen en ce moment, il y a deux approches. Il y a l'approche de ceux qui disent... On va quand même essayer de faire des petites choses qui vont quand même aider. Par exemple, on a fait tous ces fonds dont je parlais. Mais enfin, ça, c'était une logique de crise. Ce n'était pas une logique de gestion du système à moyen terme. Mais on pourrait mettre en commun plus de choses. On pourrait mettre en commun un bout des systèmes de retraite. On pourrait mettre en commun les systèmes d'indemnisation du chômage. On pourrait mutualiser une partie des dettes. Et si vous mettez ensemble une partie des dettes publiques, les pays qui payent des taux d'intérêt plus élevés paieraient des taux d'intérêt plus bas. C'est bien un transfert vers ces pays. Et donc, il y a des gens qui disent on va faire une logique de petits pas techniques comme ça pour essayer de faire un peu de fédéralisme doucement pour avancer dans la bonne direction. Et je suis en train de finir un rapport à Jean-Marc Ayrault, là, au Conseil des économiques, qu'on va rendre jeudi, où on dit on est dans cette ligne-là. Dans la ligne, on dit de toute façon, les changements institutionnels et politiques, ça va prendre des décennies. Essayons de faire des choses qui soient acceptables et qui soient des petits pas qui vont dans la bonne direction pour alléger en partie et autant qu'on le peut la situation des pays en difficulté, par exemple en mettant en commun une partie des dettes publiques, ce qui évidemment soulagera d'autant ces pays. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que je regardais ce matin, on avait un abondant échange de mails avec nos collègues allemands du même groupe qui disent jamais on fera ça, on est couché en travers. Si vous voulez faire ça, il faut d'abord changer les institutions. On ne peut pas mutualiser les risques entre des pays si on n'a pas d'abord réglé le problème politique. Et pourquoi ? Pour deux raisons. Raison 1, ce que les économistes appellent les aléas de moralité, c'est un truc qui vient de l'assurance. L'Allemagne garantit qu'elle va financer le déficit public de l'Espagne, les Espagnols vont recommencer à faire n'importe quoi avec leur budget. Et donc, on ne peut pas faire ça tant qu'on n'est pas sûr que les Espagnols ne vont pas recommencer à faire n'importe quoi avec leur budget. Donc, mon camarade allemand qui s'appelle Guntram, là, ce matin, il m'a mis 22 mails qui commençaient tous par « Tant qu'il y a Berlusconi, je n'ai pas confiance ». Vous voyez, donc, là, ça sert à... Mais là, il a raison, mais bon. Est-ce qu'on a traité l'aléa de moralité? Est-ce qu'on est sûr que si, on avait une grande mutualisation des dettes publiques, vous voyez, on aurait une agence européenne qui financerait... Alors, on garde nos budgets, quoi, chacun, mais il y a une grande agence européenne qui, au lieu que chaque pays se finance un par un dans son coin, qui finance une partie importante des dettes. Est-ce qu'on est sûr que les pays ne vont pas en profiter pour se mettre à refaire n'importe quoi avec leur budget? Honnêtement, les pires, ce serait probablement les Français. Donc, la réponse est non. Et donc les Allemands disent tant qu'on n'a pas montré comment on traitait le problème d'aléa de moralité, on ne peut pas avancer dans cette direction. Et puis ensuite, il y a un problème politique. Les Allemands disent, on veut bien payer des impôts pour les pays du Sud, mais ça nécessite l'union politique. C'est-à-dire qu'on a un Parlement commun qui va décider ensemble des trucs, qui va décider des politiques de redistribution, et donc on est dans une union politique. Donc il faut d'abord faire l'union politique avant de mettre des instruments de solidarité qui n'ont pas de sens tant qu'on n'a aucune union politique et qu'on est sur une base de pays par pays. Donc en gros, il y a une approche, je dirais, un peu pragmatique, franco-italienne, qui dit l'union politique, ça va mettre 10 ans. Dans le plan Van Rompuy, ça met 5 ans. Mais 10 ans, et on ne peut pas rester à faire rien pendant 10 ans. On ne peut pas juste pendant 10 ans être dans l'ajustement par les mécanismes de marché. Et puis, il y a les Allemands, les Finlandais, les Hollandais, les Autrichiens, etc., qui disent non, il faut un processus politique clair. On va d'abord avancer dans la réforme institutionnelle. Ça nécessite des règles contraignantes. Ça veut dire que les parlements acceptent de perdre leur souveraineté budgétaire. Donc, par exemple, il y a une autorité budgétaire européenne ou un commissaire européen au budget qui est capable de dire au Parlement français « Votre budget est rejeté, vous en faites un autre ». Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle le semestre européen où la Commission européenne peut dire au Parlement français « J'aime pas votre budget ». Si le Parlement français je dis c'est le budget, il ne se passe rien. Donc, ce n'est pas ça. Hein, ce n'est pas de la supervision gentille. C'est un droit de veto sur les parlements. Et alors là... Allez expliquer ça aux parlementaires français de base. Même lui, il n'est pas d'accord. On n'est pas en train de parler que des Allemands. Et les Allemands disent, tant qu'on n'a pas ça, c'est donc qu'il n'y a pas d'union politique. Et on ne voit pas pourquoi, en dehors d'une union politique, on mettrait en place des institutions fédérales dans un contexte qui n'est strictement pas clair, et en plus extrêmement dangereux, parce qu'ils refabriqueraient de la dérive budgétaire. Ou là-bas. Donc on en est là, et vous voyez que ceci... j'ai encore 3 minutes... Je vais peut-être dire 2 mots de la France quand même, Pascal, si tu permets, parce que sinon vous aurez du mal à manger le sandwich. Évidemment, jette un très grand doute sur l'optimisme ambiant, où en gros on vous raconte la crise est finie, etc. Parce que les marchés financiers ont cru comprendre que la Banque Centrale Européenne, quoi qu'il arrive, arrêterait une nouvelle crise en achetant éventuellement une quantité infinie de la dette publique du pays en difficulté. Donc l'idée, c'est que si les taux d'intérêt sur l'Espagne recommencent à monter, la BCE va acheter la dette espagnole pour 100 milliards, 200 milliards. Donc Mario Draghi, Super Mario, comme on dit, est là avec le carnet de chèques et vas-y. Ça, c'est pas vrai du tout. C'est absolument inacceptable pour les pays du Nord, puisque si la BCE achète des quantités très importantes de dette, elle les met sur son bilan. Si elle fait une perte, vous savez que cette perte doit être épongée par les États de la zone euro. Donc le contribuable allemand épongerait les pertes de la BCE. Si la BCE achète la dette espagnole et que l'Espagne fait faillite, c'est les contribuables français, allemands, italiens, etc. qui rembourseront la BCE. Donc c'est de la mutualisation. Alors s'il s'agit de 20 milliards d'euros, on ne va pas se battre. S'il s'agit de 200 ou 500 milliards d'euros, on va se battre. Et les Allemands n'accepteront jamais de mutualiser la dette espagnole sans une union politique et un contexte institutionnel clair, avec un biais allemand récent qui est aussi que c'est mieux si c'est les Allemands qui contrôlent tout. Puisque vous savez qu'il y a quand même quelque chose qui est totalement extraordinaire dans les procédures, c'est qu'il y a un fonds européen qui s'appelle l'ESM, en français on dit MES, qui est un fonds qui peut prêter aux pays en difficulté. Le déclenchement du MES, il est conditionné à un accord des chefs d'État, donc du Conseil européen. Donc si les chefs d'État décident que l'Espagne a besoin d'argent, ouais. Or, depuis le mois de juillet, l'accord est le suivant, enfin fin juin, c'est que si les chefs d'État décident que le MES doit prêter à l'Espagne, ceci doit être ratifié par le Bundestag, par le Parlement allemand. Donc le Parlement allemand, avec l'accord du Conseil européen, a maintenant un droit d'opposition aux décisions du Conseil européen. C'est quand même extraordinaire. C'est un truc... Donc c'est ce que Sylvie Goulard, vous connaissez peut-être, qui appelle le fédéralisme asymétrique. En gros, tout est fédéral, surtout quand c'est les Allemands. Donc vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un contexte institutionnel et politique qui permette de faire de la mutualisation massive ou des transferts massifs de revenus entre les pays. On n'a absolument pas la capacité politique à faire ça. Et c'est clair. Donc il n'y a pas, en réalité, de mécanisme de sauvetage de la zone euro pour de grandes quantités. Donc si on avait une très grosse taille de crise à nouveau, on ne saurait pas comment réagir. Voilà. Alors juste un tout petit mot pour la France. Mais c'est un rapport lointain. Vous avez un papier là. Juste pour vous dire qu'il faut savoir que la France est un pays qui a des caractéristiques structurelles extrêmement différentes de celles des autres pays de la zone euro, puisque ce qu'on a dit sur la spécialisation productive, donc en gros, quand vous êtes avec une population mal qualifiée, avec un effort de recherche historiquement faible, des problèmes d'infrastructures publiques et que vous êtes loin, vous n'êtes pas un grand pays industriel et vous ne le serez jamais. Quand vous faites cette analyse sur la France, ben évidemment, elle ne marche pas. C'est-à-dire que la France devrait être un grand pays industriel. Il y a des écoles d'ingénieurs. Bon, les gamins ne glandent rien dans les écoles. Mon fils a fait Centrale, je ne suis pas sûr qu'il savait où était l'école. Bon, enfin bon, ça ne faut pas le dire. Mais il y a des écoles d'ingénieurs, des infrastructures publiques, de l'énergie pas chère, des systèmes de transport extrêmement efficaces, une position géographique qui est bonne, une histoire industrielle, des grands groupes industriels. Donc on ne comprend absolument pas. Enfin, on ne peut pas en France dire c'est malheureux, mais c'est inexorablement les avantages comparatifs du pays qui nous désindustrialisent. Donc la désindustrialisation de la France, c'est un phénomène totalement pathologique. Hein, donc on ne peut pas traiter la France comme... Enfin, la réflexion sur l'Espagne, l'Italie, le Portugal ou la Grèce ne peut pas du tout être la même que la réflexion sur la France. Hein. Et donc il faut essayer de comprendre pourquoi en France... on a ce phénomène pathologique, qu'on devrait être un très grand pays industriel, et je vous l'avais déjà montré tout à l'heure, mais je vous le remonte, hein, qu'on est un pays où la taille de l'industrie dans l'économie, qui est la ligne verte, est la plus petite après la Grèce, hein, et plus faible même qu'en Espagne, plus faible qu'au Portugal, bien plus faible qu'en Italie, et monstrueusement plus faible qu'en Allemagne. Donc ceci est complètement anormal. Donc on est dans un cas... on ne peut pas du tout utiliser l'analyse de notre livre, hein, en disant c'est la spécialisation productive normale, etc., et optimale. Ce n'est pas ça. Ce ne sont en réalité que des erreurs, alors pas forcément de politique économique, hein, de politique économique ou de gestion des entreprises, de choix stratégiques, etc. Et fondamentalement, ce qu'on a appelé la théorie du sandwich, c'est de dire que la France est mangée par les deux côtés, que le haut de gamme est parti à des tout petits bouts truc près, quoi. Il reste le luxe, un peu de pharmacie, et peut-être un petit peu des bouts d'Airbus et des bouts de bateaux, mais vous voyez, essentiellement, l'industrie du haut de gamme n'est plus en France. L'industrie du haut de gamme, elle est au Japon. Regardez l'électronique, regardez la métallurgie, regardez les matériels compliqués, regardez la voiture, etc. L'industrie du haut de gamme, elle est dans les pays nordiques, en Allemagne, au Japon, en Suisse, etc. Et même en Angleterre. En Angleterre, on fabrique des Jaguars, etc. Enfin, d'abord... Hein. La pharmacie anglaise ou les biotech anglaises sont incroyablement haut de gamme. Hein. Donc on a perdu le haut de gamme, et ce qui est quand même extrêmement anormal, à nouveau compte tenu de notre histoire industrielle. Et on perd aussi le bas de gamme, parce que dans le bas de gamme, il faut être pas cher. En gros, on est un pays qui fabrique du bas de gamme avec les salaires du haut de gamme. Enfin, c'est autrement, on essaie de fabriquer des Renault avec les salaires de BMW, ce qui est quand même compliqué, quoi. Et alors, c'est le sandwich, vous voyez, parce que vous êtes bouffé par en haut par les pays haut de gamme et par en bas par les émergents, par l'Espagne, à nouveau, qui est un pays pas cher. Regardez le débat chez Renault, par exemple, en ce moment, pour savoir si Renault devient un constructeur espagnol ou reste un petit peu un constructeur français. Hein. Et ceci est un piège terrible, parce que je vais vous montrer un seul graphique sur la France, mais vous avez bien plus de détails dans le petit papier. Ceci, ça concerne l'industrie française. Ce que vous avez en haut, c'est l'évolution du coût de production dans l'industrie, hein, par unité produite. Et vous voyez que ça a monté, mais on le voyait tout à l'heure, ça a monté peu, en réalité. Hein. Donc, ce n'est pas vraiment un problème de coût. On a des niveaux de coûts qui sont élevés, mais qui n'ont pas beaucoup augmenté depuis une dizaine d'années. Mais l'horreur française, c'est la ligne d'en bas, qui sont les prix de vente de l'industrie. L'industrie est obligée de baisser ses prix pour vendre. Si vous voulez vendre des petites voitures bas de gamme, bah, comme vos concurrents, ils sont en Corée, en Inde, etc., en Slovaquie, en Roumanie, vous êtes obligé de baisser vos prix. Et donc l'industrie est en train de mourir parce qu'elle ne gagne plus du tout d'argent. Quoi, je veux dire, hein. Ses prix baissent et c'est pas ses coûts. Donc on a le mélange de la rigidité salariale dont je parlais avant et du niveau bas de gamme qui force, qui impose de baisser les prix, fabrique l'écrasement des marges. Et l'écrasement des marges est un truc terrible parce que l'industrie n'a plus d'argent et comme elle n'a plus d'argent, elle ne peut plus investir. Et comme elle ne peut plus investir, ben elle ne peut pas se moderniser et elle ne peut pas remonter en gamme parce que pour monter en gamme, il faut beaucoup d'argent, quoi, pour investir, pour faire de la recherche. Et donc, on est dans ce piège terrible. Et alors, comment est-ce qu'on en sort? Ben, monter en gamme, c'est bien. Et à nouveau, c'est long, c'est compliqué. On commence tout juste et puis on ne sait pas trop comment faire ça, d'ailleurs, hein. On peut bien sûr mettre de l'argent public dans les bonnes PME innovantes, mais on le fait. Simplement, on est dans le domaine aujourd'hui où on fait des, Enfin, on peut toujours, vous savez, ça n'a rien à voir avec la macroéconomie. Quand vous regardez ce qui se fait, c'est quelques dizaines d'entreprises et dans lesquelles qui vont aller bien, dans lesquelles on met un peu d'argent, et ça règle le problème macroéconomique qui n'a absolument pas bougé. Ou bien on peut baisser les coûts, et pour baisser les coûts, il faut baisser les salaires. Je veux dire, hein. Et donc là, on est dans un truc très, très, très compliqué, puisque c'est évidemment pas agréable, et puis c'est pas du tout le modèle de marché du travail français. Et donc, on ne sait pas comment faire, en réalité. Hein. Et c'est pour ça que c'est un piège affreux, cette histoire de sandwich, que vous êtes mangé dans le haut et dans le bas. Quoi. Voilà, donc, voilà. Je m'arrête là, parce que vous êtes déjà dans un état de dépression totale. Donc, il y a du rhum et des cordes à l'extérieur de la salle, mais avant... je suis évidemment à vous pour questions, remarques, critiques, retour sur l'analyse, hein, s'il y a des points qui vous méritent, qui pensez qu'il faut élucider davantage. Oui, pardon, je ne vois pas bien. Okay.
J'ai une réflexion qui m'est venue subitement à l'esprit il y a quelques jours. Hier, je regardais sur mon email, donc j'avais réussi à trouver en téléchargeant de manière légale, bien entendu, l'intégralité de ce fameux rapport gallois.
Oui.
Et un truc qui m'a venu à l'esprit, bien entendu, comparaison n'est pas raison et toute proportion gardée pour ne pas déclencher quelques polémiques. Mais est-ce que toute proportion gardée, le rapport gallois, après, est-ce qu'il est bon ou pas, est-ce qu'il est faux, je ne rentre pas dans le fond, est-ce que toute proportion gardée, ça ne serait pas un peu ce qui avait fait de manière beaucoup plus ample et plus violente le fameux rapport Arts 4 en Allemagne à l'époque de Garand-Schröder. En prenant beaucoup de précautions.
Parce que Gallois, enfin moi j'ai beaucoup travaillé avec Louis Gallois au moment du rapport. Alors, si vous lisez attentivement le rapport Gallois, vous y voyez ce graphique, ce qui est quand même central. Le rapport Gallois part de cette constatation-là, donc j'y reviens pas, d'une autre que j'aurais pu faire, c'est que contrairement à ce qu'on entend encore dans le débat public aujourd'hui, on ne peut pas attribuer. Et je lisais un article dans Le Monde il y a quelques jours d'un de mes collègues à Paris 1, parce que je suis aussi prof à Paris 1, enfin à Villerest, qui disait était complètement faux, malheureusement, parce qu'il disait notre vrai problème, c'est l'insuffisance de la demande. Hein, or, si vous regardez l'industrie française, de 1998 à aujourd'hui, la demande intérieure, en volume, donc en termes réels, hein, la demande intérieure pour les produits industriels en France a augmenté de 60%, la production industrielle a baissé de 5%, et, alors ça je vais pouvoir le montrer, j'ai pas retrouvé mon truc tout à l'heure, ça m'énerve ça. Et la production industrielle a baissé de 5%, et les importations industrielles ont augmenté de 100%. Hein. Donc chaque fois qu'on a stimulé la demande en France, ceci a été satisfait absolument pas par une progression de la production et entièrement par une progression des importations. Et donc, et ça se voit aussi à l'export. Je vais montrer les deux graphiques que j'aimais beaucoup montrer avec Christine Lagarde parce que ça la plongeait dans une déprime totale. C'est deux graphiques sur les exportations de la France. Alors, voilà. Donc là, vous avez les exportations vers la Chine. Et ce que vous allez voir est absolument typique de la France. Regardez quand les exportations vers la Chine, poum, partent comme ça. Vous voyez, par exemple, entre 2009-2011, le grand plan de relance chinois. Regardez les exportations de l'Allemagne. Tchou! Immédiatement, les Allemands exportent sur le marché chinois. Regardez les exportations de la France. Bah, il ne se passe rien. Hein. Enfin, ils ont non plus, mais enfin, vous voyez là. Hein. Alors là, Christine Lagarde disait, oui, mais la Chine, c'est loin. Vous savez, une de ces remarques dont elle a le secret. Et alors, on lui montrait les exportations vers l'Europe centrale et la Russie. Donc, vous voyez, pareil, quoi. Donc, et c'est vrai, pareil aussi sur la demande intérieure. C'est que la France, l'appareil productif industriel français, n'a plus aucune capacité de réaction à la demande.
Parce que c'est pas surtout le gros problème, c'est, je me dis, c'est surtout, comme vous disiez tout à l'heure, un problème de positionnement de gamme.
Oui, oui, je suis d'accord, c'est un problème de positionnement de gamme.
Avec des industriels frileux, notamment pour faciliter le groupe PSA.
Bah, PSA, ils n'ont pas été frileux. Je ne crois pas que ce soit la critique qu'on puisse faire à PSA. PSA n'a pas compris qu'on ne pouvait plus fabriquer du bas milieu de gamme avec les coûts français.
Mais dans le manque de frilosité pour essayer de se positionner, j'irais sur le haut de gamme. Après, il y a eu une petite correction à l'époque de Jean-Marc Rintoul. J'ai l'impression, sans vouloir revenir à l'époque de Gauthier Zadel, Si PSA ne paye pas avec deux décennies de retard les conséquences de la politique de Jacques Calvet.
Oui, je
sais pas, mais je pense qu'il pense. Le problème, vous voyez, le problème, il est clair, c'est que. Le problème, il est clair, c'est qu'on s'est laissé prendre dans ce piège où on n'est pas monté suffisamment vite en gamme. Comme on n'est pas monté comme on n'est pas monté suffisamment vite en gamme, on a dû commencer à baisser les prix pour continuer à vendre. Regardez l'automobile, regardez la sidérurgie, regardez. Et quand vous commencez à baisser vos prix, c'est fini, parce que vous n'avez plus les moyens de monter en gamme, justement, parce que vous n'avez plus d'argent pour faire ça. Isabelle a fait un papier sur les budgets de recherche-développement des constructeurs automobiles. Enfin, les Allemands dépensent des sommes qui n'ont aucun rapport à ce que dépensent les Français. Juste les Allemands, ils ont de l'argent à mettre dans la recherche-développement et pas les Français, quoi. Et donc, voilà. Et alors, j'aurais dû dire avant, il ne faut pas que le CAC 40 cache la forêt. Parce que les gens disent, oui, mais regardez toutes ces belles entreprises du CAC 40, LVMH, Alstom, Air Liquide, etc., Lafarge, ils ne sont juste pas du tout français, quoi. Donc le CAC 40, c'est des multinationales. Le CAC 40, ça représente 4% de l'économie française. C'est pas du tout le CAC 40. Il ne faut pas regarder le CAC 40. Ça ne donne aucune indication sur la situation de l'économie française. C'est des entreprises totalement mondiales. Et donc, c'est pas ça. Le problème, c'est que les entreprises établies en France, elles, sont restées coincées dans un niveau de gamme qui, aujourd'hui, les met en concurrence avec les émergents. Les concurrents les plus. Et à nouveau, maintenant, des pays comme l'Espagne ou même les États-Unis, on n'en a pas parlé, qui redeviennent, avec l'énergie, avec la baisse des salaires aux États-Unis, extraordinairement compétitifs dans un certain nombre d'industries. Donc, on a plein de concurrents. Beaucoup moins cher que nous dans le bas de gamme. Donc, évidemment, ce n'est pas un plan d'avenir de rester dans le bas de gamme. Mais comment vous remontez en gamme? Bien, moi, je déjeunais le jour avec Carlos Ghosn, qui est un truc qu'on fait de temps en temps, parce que c'est un drôle de type, mais il est marrant. Il dit, mais Renault ne fera jamais du haut de gamme. Il dit, on ne sait pas. C'est-à-dire que mes équipes ne savent pas faire du haut de gamme. C'est-à-dire, une Audi, les équipes de Renault ne savent pas en faire une. C'est-à-dire, s'ils en faisaient une, elles ne marcheraient pas. Et deux, de toute façon, même si on savait en faire une, elles ne se vendraient pas. Parce qu'il y a des effets de réputation, etc. Donc, on ne va même pas essayer. Le haut de gamme, ça sera Nissan, et donc, ça sera au Japon, aux États-Unis, etc. Mais comment vous faites? Alors, bien sûr, après, il y a plein de belles PME. C'est sur le plateau de Saclay, il y a des types géniaux, avec des idées incroyables. Je connais une boîte qui fait des lasers pour analyser à très haute atmosphère, la composition chimique de l'atmosphère à très haute altitude. Ils sont seuls au monde à savoir faire ça. Ils sont 20, quoi. Vous voyez, donc d'ici que ça résolve le problème de chômage, quoi. Ils sont formidables, quoi. Donc il y a plein de boîtes formidables. Simplement, vous êtes dans l'anecdotique, quoi. Je veux dire, là, 80% des PME françaises, il y a un rapport Conseil économique là-dessus, 80% des PME françaises n'ont jamais aucune augmentation de leur chiffre d'affaires et ont tous leurs clients à moins de 20 km du siège social. Donc voilà la réalité. On est dans un monde où les gens sont extraordinairement défensifs dans leur stratégie. Et il y a très, très, très peu d'entreprises offensives dans leur stratégie. Je crois que c'est à peu près ce que vous disiez. Et alors, pour sortir de ça, alors bien sûr, on peut mettre de l'argent public dans les belles entreprises, dans les start-up innovantes, etc. Il faut se rendre compte que c'est un processus terrible. Juste un autre chiffre pour montrer l'ampleur du problème. On a compté, toujours au Conseil économique, le nombre de... Vous savez, les grosses entreprises industrielles qu'on appelle les ETI. Donc, c'est au-dessus de 250 salariés. On a compté le nombre d'ETI qui avaient des rapports réguliers avec un laboratoire public de recherche. En France, il y en a... Alors, réguliers, oui, c'est pas... C'est vraiment des contrats, des produits développés en commun, des contrats de travail avec des labos. En France, il y en a 750. En Allemagne, il y en a 15 000. Donc, vous voyez, ça fait peur quand même. Et l'autre chiffre que je trouve sympa, c'est le nombre de robots. L'industrie française, en 2012, a acheté 3 000 robots pour se moderniser, et l'industrie allemande, 19 000. Donc, vous voyez, notre niveau de gamme, pas dans l'absolu, notre niveau de gamme relatif, en ce moment, il continue à diminuer, quoi. Alors, bien sûr, tout ce qui est bien, le FSI, les fonds de la Caisse des dépôts, tout ça, c'est OSEO, tout ça, c'est vachement bien, mais il faut vous rendre compte que vous êtes dans l'anecdotique par rapport au problème de fond, qui est qu'on ne sait pas quoi faire de cette masse de PME totalement inerte, quoi, je veux dire, qui n'investissent pas, qui n'embauchent pas, qui ne font pas de recherche, qui n'exportent pas, et qui vivent sur les produits de grand-papa, qui vendent toujours aux mêmes clients. Et ça, c'est un truc terrible.
Non, mais je continue l'entreprise de remontée de morale.
Vous nous parlez beaucoup d'industrie.
Oui.
Est-ce que la valeur ajoutée tertiaire qui s'exporte ne peut pas être un palliatif?
Oui, alors, mais je l'ai dit au début, je crois, madame, que fallait que je prenne l'industrie, fallait donc industrie. appelons ça tous les secteurs exportateurs. Donc, et c'est vrai qu'on est plutôt meilleur, d'ailleurs, dans les services exportés que dans l'industrie. On a une balance commerciale qui est assez positive. Je ne parle pas du tourisme, hein, qui est un truc un peu... Mais hors tourisme, on a... mais qui est important, le tourisme. Hein, mais on a hors tourisme, on a un gros point de PIB d'excédent des services exportateurs, alors qu'on a 4 points de PIB de déficit industriel. Et ça, ça recouvre l'ingénierie, la logistique, les services financiers, le ciné, enfin, c'est tout ce que vous voulez, quoi, hein, tout ce qui s'exporte. C'est vrai, non. Donc, il faut absolument comprendre l'industrie, les jeux vidéo, où on a une traîne industrielle qui est extrêmement performante mondialement. Il faut absolument comprendre l'industrie. Ce n'est pas l'industrie manufacturière. Les Anglais, ils utilisent un mot qui est plus clair, c'est « traded », hein, c'est-à-dire tout ce qui s'échange, quoi. Hein. Donc, ce qu'il faut faire grandir, c'est nos secteurs qui fabriquent des biens échangeables. Hein, donc, ça inclut... Oui, mais on ne sait pas. Oui, mais parce que c'est en anglais, c'est facile. Enfin, dire en anglais, c'est ouais. En français, on secteur échangeable, on ne sait pas. C'est pas beau, quoi. Faudrait trouver un mot. Ouais. Mais c'est ça. Dans l'idée, c'est vraiment trading, quoi, bien sûr. Hein. Et donc, évidemment, il faut regarder tout ce qui fabrique. Je disais au début, des emplois raisonnablement qualifiés, avec de l'innovation technologique et qui s'exporte. Hein. Évidemment, il y a. Mais quand même, quand vous regardez ça, le total de ça. Reste, enfin, c'est tout petit par rapport encore à l'industrie manufacturière, même si l'industrie manufacturière est plus très grosse.
Pour revenir à l'Europe, parmi les petits pas ou les pas dont vous avez parlé, vous n'avez pas évoqué la convergence fiscale des entreprises notamment, mais pas seulement. Je ne pense pas à qui vous pensez, particulièrement. Mais d'une manière générale, la convergence fiscale, qui est quand même un élément discriminant important, et aussi la convergence des droits sociaux, qui est également un élément du droit social, dirons-nous, pour ne pas qu'il y ait de confusion, pour du travail, qui est également un élément discriminant.
Oui. J'avais même noté, mais je me suis dit que j'avais dépassé. On a une vraie question à traiter. C'est un sujet dont on parlait avec Isabelle ce matin en travaillant toujours sur notre truc, là, qui est la question de la subsidiarité. C'est-à-dire, l'idée européenne, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont gérées centralement, et puis il y a des choses qui sont dans le champ de la subsidiarité, c'est-à-dire qui sont mieux gérées de façon décentralisée par les pays. Donc la question, moi je crois que c'est une question sur laquelle il n'y a pas assez de réflexion, c'est vrai que vous posez une question très importante, c'est où est-ce qu'on met la frontière, quoi. Dans les systèmes sociaux, quel degré de d'originalité nationale est-ce que vous avez le droit d'avoir ? Alors, parce que vous avez le droit d'avoir un âge de la retraite qui n'est pas du tout le même que celui des autres, quoi. J'ai pas les réponses. Hein, je dis, est-ce que vous avez le droit d'avoir un système d'indemnisation du chômage qui n'a pas la même générosité, système de santé qui n'est pas organisé pareil ? Enfin, vous voyez, dans le champ des impôts. Quels sont les impôts que vous pouvez librement choisir parce que vous avez envie d'avoir des niveaux de dépenses publiques plus ou moins élevés que les autres ? Quels sont les impôts qu'il faut harmoniser parce que ça crée des biais de compétitivité si vous ne les harmonisez pas ? C'est une question très, 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 très compliquée. Quoi. Angela Merkel, par exemple, a une vision très claire. Elle dit l'âge de la retraite, ça ne peut plus être laissé au niveau des pays parce que d'abord, les pays qui ont des âges de la retraite plus tôt, ils créent une charge budgétaire qui finalement tombe sur leurs voisins. Et puis, ça crée des biais de concurrence. Donc, en gros, on va avoir un âge de la retraite européen. 79 ans, enfin, dans la vue de Angela Merkel. Enfin, 67, vous savez, en Allemagne, d'ici 10 ans. Et vous voyez, voilà, les impôts, le seul impôt qui est harmonisé, c'est la TVA. Il y a aujourd'hui une petite tentative de début, de commencement d'harmonisation de la base de l'impôt sur les sociétés. Pas du tout. La base, hein, mais qui pour l'instant pas beaucoup avancé, mais le seul impôt qui est vraiment harmonisé, c'est la TVA. Il y a un maximum, un minimum. Si vous voulez une dérogation, il faut demander l'autorisation européenne. Et assez curieusement, c'est le seul impôt qui ne nécessite absolument pas d'être harmonisé, normalement. C'est-à-dire, vous allez rarement dire « TVA n'est pas cher, je vais déjeuner à Berlin ». Vous voyez, ce genre de truc qui n'est pas facile à faire. Par contre, il n'y a aucune harmonisation des charges sociales qui crée là des vrais biais de concurrence, hein, avec des écarts énormes entre les pays, etc., ou de l'impôt sur les sociétés qui crée des biais aussi. Donc, une vraie question qui est qu'est-ce que vous pouvez raisonnablement garder au niveau national et qu'est-ce qui doit être harmonisé au niveau européen. Une seconde question encore plus horrible, c'est coordonner, c'est pas forcément harmoniser. Et par exemple, prenez l'Irlande. La seule raison qui fait... Enfin, non, pas la seule, j'exagère. Enfin, une des raisons quand même importantes qui fait que l'Irlande est un pays prospère, c'est que le taux d'impôt sur les sociétés est à 12%. S'il était à 33%, je peux vous dire que l'Irlande, c'est aussi mal que la Grèce. Alors, c'est vrai que les Irlandais sont bien qualifiés, etc. Bon, enfin, quand même, il n'y a pas que l'impôt sur les sociétés. Il n'y a pratiquement pas de charges sociales en Irlande. Il n'y a aucune... Très, très, très peu de protection sociale. Cotisation sociale, c'est 5% du PIB en Irlande, c'est 25% du PIB en France. Vous voyez, hein. Et donc, évidemment, ça attire des tonnes d'entreprises en Irlande. Pas d'impôts et les coûts salariaux sont très faibles. Vous savez qu'un informaticien en Irlande, c'est moins cher qu'en Égypte. Quoi. Donc, et il parle anglais, enfin, l'égyptien aussi, d'ailleurs. Mais bon, est-ce que c'est acceptable ou pas? Alors, à ce degré-là, c'est peut-être pas acceptable. Mais d'un autre côté, si on avait banalisé la fiscalité irlandaise, l'Irlande serait un désert. Hein. Et donc, on doit peut-être accepter une certaine... dérogation à l'harmonisation, parce que, bah, vous voyez, aujourd'hui, si on voulait recréer des emplois en Espagne ou en Grèce, ce serait peut-être pas mal de donner des avantages fiscaux à l'Espagne ou à la Grèce. Et donc, de désharmoniser. Hein. Donc, harmoniser, à nouveau, c'est pas la même chose que coordonner. Quoi. Donc, tout ça est vachement compliqué. Aujourd'hui, à nouveau, dans le domaine fiscal et social, on ne coordonne à peu près rien, à ma connaissance, dans le domaine social, hein, puisque, bon, on peut regarder les durées d'indemnisation du chômage, ça varie entre 6 mois et 3 ans, suivant les pays. Et on coordonne la TVA dans le domaine fiscal. On essaie de coordonner la base de l'IS. Tu vois autre chose, Isabelle, qu'on coordonne? Non, c'est à peu près tout. Hein. Et dans le domaine social, chaque pays en fait absolument à sa tête. Un autre sujet, salaire minimum. Les Allemands n'ont pas de salaire minimum. Hein. Les Français ont un salaire minimum qui est à 50% du salaire moyen. Les autres pays européens qui en ont, il est à peu près à 30% du salaire moyen. Ça crée des biais colossaux. Une vendeuse de supermarché en Allemagne, ça gagne 700 euros par mois. Hein. Donc il y a des et d'ailleurs ce qu'on ignore parfois, c'est que une des raisons très fortes de la compétitivité de l'industrie allemande, c'est que les salaires des services sont très bas. L'industrie allemande consomme des services à des salaires très bas et les Allemands se logent extrêmement bon marché, ce qui permet de baisser le coût du travail parce que les loyers sont très faibles. Hein. Et que le prix des maisons est très bas. Donc, on a quand même des... Vous savez, les biais de compétitivité, ils se logent partout, quoi. Alors, la question, vous ne pouvez pas tout harmoniser. Donc, quelles sont les urgences, hein, c'est comme ça la question. Qu'est-ce qui est vraiment pas harmonisé? Je pense quand même que les charges sociales, c'est quand même un truc... c'est incroyable. Quoi. C'est les mêmes entreprises. Regardez, si vous avez lu le rapport de Galois, Galois cite, par exemple, le cas des jeunes cadres d'Airbus. Donc, c'est exactement les mêmes types, hein, qui fabriquent les mêmes avions, que les mêmes études, soit à Hambourg, soit à Toulouse. Eh bien, un jeune cadre allemand, il a le même salaire exactement que le jeune cadre français, mais il y a deux fois moins de charges sociales. Ce qui fait que finalement, le coût du travail est 25% plus bas à Hambourg qu'à Toulouse. Sur les cadres, c'est pas sur les ouvriers, c'est sur les cadres, hein, à cause du niveau des charges sur les cadres. Est-ce que c'est supportable? La réponse est probablement c'est pas supportable. Dans une union monétaire, c'est juste pas supportable d'avoir des écarts de ce type-là. Donc il y a une énorme réflexion à avoir, que personne ne veut avoir, parce que les pays qui ont un avantage compétitif, parce qu'ils ont des impôts bas, ne veulent pas qu'on y touche, et parce que les pays qui ont des systèmes de protection sociale très généreux ne veulent pas non plus qu'on les rende moins généreux. Quoi. Et donc il y a une envie commune de ne pas toucher, de ne pas traiter ce problème.
On n'a parlé que des pays de la zone euro, mais quid de nos amis britanniques qui ont beaucoup des avantages européens, mais quand il est pour la guide, ça veut give my money back.
Oui, mais ce n'est pas que give my money back, ça s'appelle opt-out, hein, c'est-à-dire je n'applique pas la règle européenne. Vous savez qu'il y a des opt-out anglais à peu près partout. Il y en a sur la monnaie, bien sûr, mais il y en a aussi sur pratiquement la totalité du code du travail, hein, la durée du travail, des choses comme ça, les droits de licenciement, oui, oui. Assez curieusement, le débat est dans l'autre sens, parce que vous savez qu'aujourd'hui, en Angleterre, il y a une pression très forte sur le gouvernement pour que l'Angleterre sorte de l'Europe. Hein, s'il faisait un référendum, je ne sais pas trop ce qui se passerait. Ce serait très, très juste, probablement. Bon débarras, je ne sais pas, non, mais non, je ne suis pas sûr non plus, parce que... Ouais, bah, je sais pas, ils ont rien fait. Mais non, je sais pas. Moi, j'ai des sentiments mêlés. Parce qu'évidemment, ils jouent pas le jeu. Évidemment, vous savez qu'il y a des trucs extraordinaires. Les banques anglaises ont accès à l'euro alors qu'elles sont pas dans l'euro, quoi. Donc, du coup, vous avez 70% des opérations financières en euros qui se traitent à Londres parce qu'on a donné aux banques anglaises l'accès à l'euro. Vous savez que quand vous allez à la BCE, vous avez une... c'est que des Anglais, quoi. Il y a des Anglais partout. Alors, pas dans le conseil de direction, mais dans le staff de la BCE, c'est truffé d'Anglais, quoi. C'est une institution européenne, donc il y a des trucs vachement bizarres, quoi, avec l'Angleterre, hein. Bon, d'un autre côté, c'est quand même un grand pays, extrêmement... et contrairement à ce qu'on croit, avec une industrie extraordinairement efficace, extrêmement compétitive, très pointue. Bon, c'est quand même dommage qu'ils ne soient pas dans l'Europe, quoi, je veux dire. Ils sont vachement bons dans plein d'industries, ils sont dans plein de sujets, ils sont dans plein de dossiers européens, ils sont dans l'ADS, ils sont dans... Bon, moi, je trouve ça dommage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Anglais se disent, on pourrait faire encore mieux que maintenant, c'est-à-dire on signe un accord à la Suisse avec l'UE, et donc, du coup, on n'est plus du tout dans l'UE, donc ensuite, ils peuvent faire toutes les guignoleries qu'ils veulent avec les socialistes français, machin, on n'est pas pris là-dedans. Et par contre, on a libre-échange, accès à l'euro, libre circulation. Enfin, donc on est dans le grand espace économique européen, mais nous avons une souveraineté totale sur toutes les règles, quoi. Et en particulier, on ne s'applique pas les directives européennes sur les banques, on ne veut pas en entendre parler, etc. Ouais, bon. Honnêtement, ils sont vachement plus dangereux dehors, hein. Parce que quand vous êtes dehors, vous appelez plus... Enfin, la directive européenne sur les banques ou sur les hedge funds, etc., ils sont, même si ça leur donne plein de boutons, ils sont quand même obligés de l'appliquer, quoi. Si. La directive européenne votée par le Parlement européen, vous ne pouvez pas opt-out. Hein. Et donc, ils s'appliquent la directive européenne sur les banques. Le truc s'appelle CRD4, hein, techniquement, les Anglais vont l'appliquer, ils n'ont juste pas le choix. Le régulateur européen des banques, là, il va regarder les banques anglaises dès qu'elles ont un pied dans la zone euro, quoi, je dirais. Donc, s'ils étaient dehors, ben, là, il n'y a plus de directive européenne. Donc, ils feraient exactement pareil, mais avec une plus grande liberté encore d'avoir leurs règles. Donc, je ne suis pas sûr du tout que c'est dans notre intérêt, hein. C'est sûrement dans le leur, mais je ne suis pas sûr que c'est dans le nôtre, quoi. Ils contribuent pour 6,5 milliards d'euros par an à la politique agricole commune. Ils gagnent 6,5 milliards rien qu'en sortant, quoi. Donc, enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, je préfère qu'ils soient dedans.
Mais en dehors du Royaume-Uni, on a quand même des pays d'Europe du Nord qui ont proposé d'adhérer à l'euro, hein, et qui sont, eux, pleinement quand même
oui.
En économie, quand même.
Suède.
Bon, enfin, le Danemark, vous savez, le Danemark, bon, ils ne sont pas dans l'euro, ils ont un taux de change qui a le droit de varier de 0,301% par rapport à l'euro, et ils ont les taux d'intérêt. Alors, ils n'ont pas exactement les taux d'intérêt de l'euro en ce moment, parce qu'ils ont. Enfin, ils ont le taux de change depuis le début, les Danois n'ont pas l'euro, mais ils ont un taux de change qui est radicalement fixe vis-à-vis de l'euro. Donc, ils sont quand même dans l'euro, quoi. Quand vous allez à Copenhague, vous savez que vous pouvez payer tout en euros. Hein. En fait, ils sont dans la zone euro. Hein. Ils ont juste... Leur monnaie, c'est presque une fiction, hein, aux Danois. Hein. Non, il y a un pays qui est extrêmement intéressant, c'est la Suède, par contre. La Suède, c'est un pays qui va quand même très, très bien. Est-ce que le fait de ne pas être dans l'euro les aide? La réponse est oui, parce qu'ils ont quand même une gestion du taux de change. C'est comme les Canadiens vis-à-vis des États-Unis. Ce qui est assez intéressant dans ce truc-là, c'est un truc qu'il faudrait regarder aussi. Vous dites, prenez le Canada et le Mexique. C'est deux pays qui ont 85 ou 87% de leurs exportations vers les États-Unis. Donc l'argument d'intégration économique, si vous voulez, ne peut pas jouer plus que pour le Canada et le Mexique. À aucun moment, le Canada et le Mexique n'ont eu envie d'avoir le dollar américain comme monnaie. Au contraire, ils gèrent extrêmement bien le taux de change de leur monnaie vis-à-vis du dollar. Chaque fois que ça ne va pas bien, les Canadiens déprécient le dollar canadien et du coup, ils arrivent à lisser complètement leur cycle économique. Donc en fait, on s'aperçoit de façon assez générale qui est un petit pays à la marge d'une grande puissance économique avec sa liberté monétaire, c'est un avantage extraordinaire. En général, les petits pays au bord d'une grande zone économique et qui ont gardé leur politique monétaire vont très, 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 très bien. Suède, Canada, Mexique, quoi. C'est des trois exemples comme ça qui sont très clairs, quoi, hein. Donc les Suédois, à mon avis, ont raison d'avoir leur monnaie. Ça leur donne un degré de liberté et ils profitent complètement de leur grand voisin. Mais il faut avoir un grand voisin, quoi, je veux dire. Voilà. Mais c'est un truc à regarder. Ça jette un doute, si vous voulez, sur l'argument. Quand je suis très intégré économiquement, je dois avoir la même monnaie. Le contre-exemple canadien ou mexicain était quand même très, très intéressant.
Êtes-vous pessimiste ou aimez-vous l'humour britannique?
Pardon, c'est moi?
Êtes-vous pessimiste ou aimez-vous l'humour britannique? Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si...
Ah non, mais je suis complètement désespéré. Moi, je pense que ça va aller très mal. Parce que je vais aller très mal. Non, pourquoi vous dites ça? Je crois que j'ai été sérieux. Je pense effectivement qu'on va avoir énormément de mal à réunir les conditions politiques et institutionnelles pour éviter l'ajustement par les mécanismes de marché. C'est-à-dire que la zone euro va de plus en plus constituer d'une juxtaposition de régions avec d'énormes écarts de niveau de vie, d'énormes écarts de niveau des appareils productifs, de très fortes migrations. Et qu'on va adopter ce modèle d'ajustement par les marchés, par les migrations, et pas un modèle solidaire. Le modèle solidaire, il nécessite une évolution politique qui prendra énormément de temps. Et on voit bien que même... Moi, je vois ces dossiers. Quand on négocie des tout petits trucs, mais ça met des temps infinis. Vous allez voir la Chypre. Vous allez voir le bazar que ça va être. Il faut donner 18 milliards d'euros à Chypre. Enfin, gouvernement chypriote, 10 milliards parce qu'il faut recapitaliser les banques et 8 milliards à cause des problèmes de finances publiques pures de Chypre. 18 milliards d'euros, c'est vrai, vrai c'est, on va pas, on va, ça, vous allez voir le bazar que ça va être. Alors, vous dites, d'un autre côté, les Allemands disent Chypre, c'est uniquement un centre de blanchiment de l'argent sale russe. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'y a que 40% du bilan des banques qui est de l'argent sale. Il ne faut quand même pas déconner, ce n'est pas si pire que ça. Mais même sur un petit dossier comme ça, vous allez voir que ça, les 3,2 milliards, la dernière ligne qui était débloquée à la Grèce, 3,2 milliards d'euros, ça fait quand même 6 mois qu'on s'entretue. On fait sauter des nuits blanches aux chefs d'État à répétition pour savoir si on leur donne, si on ne leur donne pas, s'ils vérifient les conditions, s'ils vérifient pas les conditions. Les conditions dans lesquelles on pourra recapitaliser directement les banques en difficulté. Savoir si on peut le faire uniquement sur les nouvelles mauvaises créances des banques ou si on peut apurer les vieilles mauvaises créances. La définition de ce que c'est qu'une vieille mauvaise créance, ça va mettre 1 an ou 2 ans, enfin on n'en sait rien. Quoi dire. Donc tout est horriblement compliqué pour des bricoles. Donc faire le saut... où vous allez commencer à mettre en commun des bouts d'impôts, des bouts du système de protection sociale, etc., avoir un budget européen d'une taille qui ressemble à quelque chose. Vous imaginez? Donc je pense que ça ne se fera pas. Et donc le plus probable, c'est qu'on va faire l'ajustement que j'ai appelé par les mécanismes de marché, mais peut-être, c'est ça qui va se faire, quoi, je veux dire. Et après tout, bon, ce n'est pas l'ajustement que je préfère, mais c'est, si vous voulez juste faire de la prévision et pas du normatif... C'est probablement cet ajustement-là qui a le plus de chances aujourd'hui de se réaliser. Donc déjà aujourd'hui, d'ailleurs, on l'a dit, hein, le niveau de vie des Portugais a baissé de 25%, le niveau de vie des Grecs a baissé de 40%, le niveau de vie des Espagnols et des Italiens a baissé de 20%, celui des Français va pas tarder à baisser de 10%. Et puis voilà, donc on va se mettre dans un ajustement comme ça, par l'appauvrissement, avec après à nouveau des flux de migration, des transferts de propriété, des privatisations... Et c'est probablement ça le scénario, si vous voulez à nouveau juste faire de la prévision, c'est probablement ça le scénario qui a aujourd'hui en tout cas le plus de chances de se réaliser. Alors après, on peut rêver, on peut dire après les élections allemandes, il y aura un nouveau gouvernement en Allemagne qui aura une vue très différente, plus européen. Moi, je travaille à la Friedrich Ebert, hein, qui est le think tank du SPD, hein, des socialistes allemands. C'est-à-dire que les Français, peut-être à un moment, ont nourri l'illusion que les socialistes allemands seraient plus accommodants que la droite allemande. C'est juste pareil. Hein, c'est pas pareil sur les questions domestiques allemandes. C'est-à-dire sur la politique économique en Allemagne, c'est pas pareil. Ils sont beaucoup plus pro-salariés, etc. Mais sur les questions européennes, c'est pratiquement la même chose. Donc, faut pas attendre des élections allemandes d'une rupture
sur les positions sur l'Europe de l'Allemagne.
Alors j'ai oublié de vous parler, parce que je fais du dernier truc évidemment horrible, c'est que la zone euro, c'est aussi totalement désintégré du point de vue financier. Enfin, on l'a dit implicitement, les Allemands ne veulent plus prêter aux Espagnols, aux Italiens, etc. Les assureurs français achètent de la dette de l'État français, les assureurs italiens de la dette de l'État italien, les assureurs espagnols de la dette de l'État espagnol et les assureurs allemands de la dette de l'État allemand. Et donc on n'a plus aucune circulation des capitaux entre les pays de la zone euro. C'est un peu ennuyeux parce qu'on a fait l'euro juste pour avoir de la circulation des capitaux. Donc si vous voulez, le problème, c'est Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, l'euro sert à peu près à rien, quoi, hein, faut quand même le reconnaître, puisque ça doit, je l'ai dit, c'était mon introduction, c'est-à-dire ça doit servir, un, à faire circuler librement l'épargne pour financer les bons projets là où ils sont, et pas simplement les projets domestiques, et deux, allouer efficacement la localisation des productions. Si vous ne pouvez plus faire circuler l'épargne, et si vous ne pouvez pas faire la spécialisation productive, parce que... Voilà, Donc aujourd'hui, le plus urgent, je pense, et ça c'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on va donner jeudi au Premier ministre, c'est de rétablir la circulation des capitaux. Vous ne pouvez pas rester dans un truc où les marchés des capitaux sont cloisonnés pays par pays. Parce que là, l'euro, ça ne sert absolument plus à rien. Alors je vais vous raconter une histoire, c'est une histoire qui était très très regardée en Italie. Il y a dans le Tyrol, il y a un restaurant. Et alors il se trouve qu'il a l'aile droite en Italie et l'aile gauche en Autriche. Donc le patron du restaurant est allé voir son banquier autrichien, son banquier italien pour financer des travaux. Le banquier autrichien lui a dit « je te prête tout ce que tu veux à 2% » et le banquier italien lui a dit « je te prête presque rien à 11 ». C'est le même restaurant. Simplement, parce qu'une banque italienne aujourd'hui, ça se finance à 11% et une banque autrichienne à 2. Parce qu'il n'y a plus aucune circulation des capitaux entre les pays. Quand vous n'avez plus aucune circulation des capitaux entre les pays, vous n'avez plus aucun intérêt à avoir l'euro. Donc l'urgence absolue, c'est de restaurer l'intégrité des marchés des capitaux de la zone euro. Alors, dans l'ordre, je crois que j'ai monsieur.
Est-ce qu'on peut dire que l'euro, c'est plus une monnaie commune que une monnaie unique?
Ah non, là, pour l'instant, justement, on est complètement dans le projet de monnaie unique. On n'est pas du tout... Le projet de monnaie commune, vous savez qu'il a été défendu par certains. C'était le projet où il y avait encore les monnaies nationales et en plus l'euro. Donc, ça ressemble au projet de droit de tirage spécial, si vous voulez, qu'avait le fonds. Donc, ce n'est pas du tout une monnaie commune, c'est complètement une monnaie unique. Hein.
Mais est-ce que lorsqu'il y a, par exemple, un transfert d'une banque grecque vers une banque allemande, le fait de détenir des euros, c'est une créance contre la banque centrale? Donc, est-ce que ça ne dégrade pas le nom de la banque centrale allemande? Donc, ça ressemble plus au vrai.
Non, vous parlez du truc. Il y a un débat, alors, je ne vais juste pas parler de ça. C'est le machin qui s'appelle Target 2, donc ça devient trop compliqué. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, comme les capitaux ne circulent plus, donc une banque allemande ne va pas prêter une banque espagnole, parce qu'elle trouve que c'est dangereux. Mais il faut bien que les Allemands ont trop d'épargne. Donc de toute façon, qu'ils le veuillent ou pas, il faut bien qu'ils la prêtent. Et ils ne veulent plus la prêter directement. Donc que font les Allemands? Ils prêtent, enfin, ils laissent leur argent dans leur banque. Mais la banque ne trouve pas l'usage de cet argent en Allemagne. Donc la banque prête cet argent à la banque centrale allemande. Et la banque centrale prête cet argent à la banque centrale espagnole qui, elle, va financer la banque espagnole. Donc au lieu que la banque centrale allemande, la banque allemande finance la banque espagnole, la banque allemande va financer la Bundesbank qui va financer Banca d'Espagna qui va financer la banque espagnole. C'est ce qu'on appelle Target 2. Donc vous voyez en violet que les Allemands sont très créditeurs et en vert que les Espagnols sont très débiteurs. Et ça, c'est ce qui fait que l'euro n'a pas disparu. Parce que si les capitaux ne traversent plus les frontières, l'euro explose, sauf si vous mettez en place un mécanisme où les capitaux traversent quand même les frontières. Et pour l'instant, les seuls agents économiques qui acceptent de prêter aux autres, c'est les banques centrales entre elles. Donc la banque centrale allemande, c'est la BCE, si vous voulez, donc vous voyez, le truc n'a pas de sens, mais la banque centrale allemande accepte de prêter n'importe quel montant à la banque centrale d'Espagne. De toute façon, les Allemands ayant trop d'épargne, à la fin, il faut bien qu'ils la prêtent aux Espagnols, mais ils ne veulent plus le faire eux-mêmes. Alors, il y a un débat en Allemagne pour savoir si c'est dangereux. En réalité, ce n'est pas dangereux du tout. Parce que si vous êtes allemand, vous avez prêté à votre banque centrale. Donc, il n'y a strictement aucun risque. Elle vous remboursera toujours. Hein. Donc, en réalité, il n'y a aucun danger dans ce mécanisme. Mais il assurait la survie de l'euro. Parce que s'il n'y avait plus du tout eu de circulation des capitaux, les pays déficitaires auraient fait faillite. Hein. Donc, mais c'est pas, ça, part, ça, ré, ça, ça révèle simplement la segmentation des marchés. Quoi. Y a-t-il une dernière question ? Eh bien, écoutez, si vous êtes totalement désespéré, j'ai rempli mon mandat. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée.